Le roman des poètes, l'émission vagabonde de la BIP. Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poesía no te ayuda a vivir, hace otra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
Se la poesía no te ayuda a vivir, allora fate qualcos'altro.
Shiri shamzayad njomusa, başka bir şey.
L'émission quinzomadaire de la BIP, brigade d'intervention poétique, Michel Armat et compagnie. Une émission pour raconter la vie des grands poètes, connus ou pas connus.
Rukuni Zhengwei Shugu, Punan Zhang Shengwu Gan Jintai, Najo Ching Wangli Shugu.
Ha a költészet nem éltet, fordulj más felé.
Avec au gré des émissions, les voix de Charo Beltran, Thérèse Bonetta, Cécile Combredet, Florence Mourieras et messieurs Christian Boisson, Jean-Claude César, Yves Flanque, Julien Gill, Marc Pastor, Patrick Vendrin et Michel Arbatz.
Si la poésie vous aide pas à vivre, vous êtes autre chose.
J'entends là une cloche. Je suis en train de me dire que c'est peut-être celle que j'ai entendue il y a maintenant bientôt 70 ans. C'est peut-être celle qu'on a fait sonner lorsqu'on m'a baptisé dans cette église qui est là à côté. Je suis né dans une maison à 100 mètres d'ici, dans la petite rue qui va de l'église dans le musée. Et bien sûr, le bourg a changé, moins que la plage, mais quand même s'il a changé, je retrouve le vent, la mer, le goût. Les choses des pierres et ce que chaque lieu est particulier quand on s'y est attaché. J'ai pas habité à Carnac longtemps, mais j'y suis revenu régulièrement. Pour moi, c'est essentiel. Tout le monde n'a pas l'honneur de naître le pays de venir, n'est-ce pas ?
Carnac, c'est vraiment l'épaisseur des choses.
L'épaisseur des choses, oui. Hein. C'est pour ça que je suis épais aussi.
Voilà, l'homme qu'on entend parler, eh bien, c'est Eugène Guillevic à qui notre émission est consacrée ce soir. Eugène Guillevic qu'on vient d'entendre évoquer Carnac, puisque c'est extrait d'un tout petit film dans lequel, qui est tourné à Carnac d'ailleurs. Guillevic, poète discret, on va dire, poète des choses, qui a mené un parcours très particulier dans la poésie du XXe siècle en France. On va suivre son parcours, bis repetita, il est né donc en Bretagne. Il est né dans une famille très pauvre. Il est né d'un père qui se destinait à être marin d'abord, puis qui s'est engagé dans la gendarmerie, avec une mère qui était, je crois, couturière, hein, et qui finalement restait à la maison pour s'occuper de ses enfants. Deux enfants, donc Guillevic et son frère cadet, je crois.
Eugène Guillevic, qui est né le 5 août 1907.
Voilà, donc il naît quasiment avec le siècle. Et il naît donc dans cette Bretagne profonde et très pauvre. On va diffuser quelques extraits au long de l'émission de cette interview qu'il a faite, dans laquelle il rappelle ce milieu extrêmement démuni. C'est un milieu dans lequel il dit par exemple que ses grands-parents vivaient encore dans une ferme avec une seule chambre commune, qui était commune aux hommes et aux bêtes. Les vaches étaient à côté, on entendait les souffles des vaches la nuit.
Avec l'écuelle creusée dans la table en bois.
Voilà, lui dit qu'il n'a pas connu ça en usage.
Mais qu'on lui a raconté.
Mais qu'il a vu ces tables, avec les chambres à lit clos. Et donc c'est un milieu très très pauvre. Lui-même dit qu'il n'était habillé par sa mère que dans les restes des vestons et des habits de son père que sa mère retaillait et recousait.
Et qu'elle les teignait en gris pour qu'on ne reconnaisse pas quand même.
Voilà. Ne se voit pas.
Et qu'il ne portait jamais de chemise, elle lui faisait juste un col.
Un plastron, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chemise, il y avait une illusion de chemise. Et donc qu'il passe toute cette enfance avec en plus dans une certaine dureté, hein, on peut dire ça, c'est-à-dire qu'il raconte longtemps que cette mère finalement n'avait absolument aucune affection pour lui, qu'elle était très dure, qu'elle était assez bigote aussi. C'est un couple un peu étrange avec un père qui est volontiers volage, qui dit lui-même qu'il doit avoir beaucoup d'enfants naturels à droite et à gauche à son fils plus tard. Et cette mère un peu bigote que le père provoque, d'ailleurs en lui racontant des histoires un peu scabreuses et paillardes. Quant à l'enfant, lui, c'est ça qui nous intéresse, eh ben, il a très très tôt, comme il n'a pas de devoir à l'école, à cette époque-là, il n'y en avait pas encore, il va, tous les soirs, il va dehors, il va dans la lande, il va dans les marais, et il établit toute une communication déjà avec l'herbe, avec les insectes, avec l'eau, avec les arbres. Et pourquoi ? Parce que, il faut le dire aussi, il se sent dès l'enfance particulier, il se trouve laid, il voit très mal, il est myope, on le découvre plus tard quand il a 11 ou 12 ans, parce qu'à cette époque, on ne se soucie pas trop de l'état de la vision des écoliers.
Il dit qu'il n'a pas d'odorat non plus.
Il n'a pas d'odorat non plus. D'ailleurs, c'est curieux parce qu'un des premiers textes qu'on va lire, c'est l'odeur de la terre à Carnac, et dont il dit lui-même que c'est assez fort pour quelqu'un qui n'a pas d'odorat. Il est myope, donc, et en plus, il est fils de gendarme, ce qui n'est pas toujours ce qui est un peu mal considéré dans l'école.
Dans l'école où il y a... je ne sais pas si on en parle maintenant aussi des bretonnants.
Oui, il y a aussi le fait que...
Il est à l'écart aussi parce qu'on lui interdit à l'école et chez lui de parler breton.
Donc il fait partie des enfants qui ne parlent pas breton, et c'est quand même une communauté très importante à l'époque. Hein. On ne va pas s'étendre là-dessus, mais enfin, on peut rappeler le titre de Morvan. Enfin, il est interdit de cracher par terre et de parler breton, hein, ce qui était inscrit dans toutes les écoles bretonnes. Voilà. Donc très tôt, cet enfant, qui est quelqu'un quand même un enfant très physique, hein, parce qu'il adore aller jouer, il parle des bagarres, il parle des séances de masturbation collective avec les copains sous les arbres.
Il aime courir la lande, sauter, aller chercher les nids dans les arbres.
Voilà, et mais pour lui, c'est le sacré, ça.
Voilà, mais il dit en même temps que lui ne prenait pas les oiseaux.
Voilà,
il regardait les nids.
Voilà, il ne détruit pas les nids, il les regarde, et il a très tôt ce qu'il dit, ce sentiment du sacré, et puis quand même c'est Carnac, c'est-à-dire c'est ce lieu très particulier, avec ses grands alignements de menhirs, avec le grand dolmen, et d'après sa mère qui lui raconte plus tard, c'est dans le champ de Carnac qu'il a appris à marcher, quoi. Donc il y a cette froideur de cette mère, ce côté très païen déjà chez cet enfant qui est influencé aussi par tout ce qu'il voit, hein, des pardons bretons, des processions qui ont lieu et qui sont plutôt, d'ailleurs il le dit, plutôt des fêtes presque païennes que des fêtes, c'est des fêtes sous prétexte religieux qui sont des grandes célébrations païennes.
C'est ça, et il dit, lui qui a été croyant, fervent croyant et pendant longtemps en fait, qu'il a été baigné dans un panthéisme.
Il y a ça, il le dit d'ailleurs, il le dit. On peut dire aussi qu'on a préparé cette émission avec un très beau livre. C'est peut-être une chance pour nous. Guillevic a écrit, a donné des entretiens dans un livre qui s'appelle « Vivre en poésie » et qui nous a énormément facilité la tâche parce qu'il parle très très volontiers de tous ces épisodes de sa vie d'une façon très concrète. C'est un homme du concret, c'est un poète des choses petites, humbles et à travers lesquelles il parle tout le temps du sacré. Voilà. Donc, on était en train de parler de cette enfance très pauvre, on l'a dit, hein, dans laquelle il n'y avait ni lumière, ni jouet. Hein, on allumait les bougies par exception. Il n'a jamais eu un jouet jusqu'à très tard. Donc, la fréquentation de l'école communale et qui est aussi le début, le premier contact avec la poésie, puisque c'est à travers les récitations de La Fontaine et les premiers poèmes qu'il apprend à l'école. Ça, c'est une chose qui nous plaît bien, nous qui défendons l'oralité et le par cœur. C'est à travers ça que Guillevic va découvrir la poésie. Voilà. On va peut-être s'arrêter là, parce que je pense qu'on en a assez dit sur l'enfance. À moins que tu aies des choses à rajouter, Patrick.
Sur l'enfance, bon, les filles, on en reparlera peut-être plus tard encore. Oui. Bon, il dit quand même que les filles ont tenu beaucoup d'importance et très tôt. Qu'entre copains, c'était une discussion très, très importante, que c'était deux humanités séparées, mais qui se regardaient, qui se cherchaient quand même à distance.
Absolument. Voilà,
et que ça a eu une grande place dans sa vie.
Oui, et puis on peut dire aussi peut-être... Le fait que, c'est une école très dure, hein, il parle de son institut par exemple, donc quand il a 7-8 ans, c'est la déclaration de la guerre, de la première guerre.
C'est ça, il
entend sonner le tocsin dans les champs, son père en tant que gendarme part à la guerre embarqué dans une charrette en criant à Berlin, hein, et lui, quelques mois après, apprend la mort de son instituteur qui lui faisait mettre les doigts, enfin qui lui tapait sur le bout des doigts à coups de règle quand il faisait la moindre faute, et là il se dit... Tant pis pour lui, il y a une justice.
Exactement, et ça le questionnera quand même toute sa vie aussi.
Voilà, donc il faut dire que c'est un bon élève, très bon élève en maths. Hein. C'est la chose qui l'intéresse le plus, les maths, la science naturelle. Le langage, ça passe très loin après pour l'instant, quoique la poésie dite l'a déjà marqué.
C'est ça, c'est observer, l'observation avant tout.
Voilà. Donc, pour rappeler un petit peu cette ambiance liturgique qui a été, qui a baigné l'enfance de Guillevic, voici un petit tractus.
Chanson. Pas par le plafond, pas par le plancher, petit enfant sage, tu ne partiras. Pas brisant les murs ou les traversant, pas par la croisée, tu ne partiras. Par la porte close, par la porte ouverte, petit enfant sage, tu ne partiras. Ni brûlant le ciel, ni tâtant la route, ni moquant la lande, tu ne partiras. Ce n'est qu'en passant, à travers tes jours, c'est à travers toi que tu partiras.
Garçon, c'était en un temps où le journal était un carré blanc, tenu par la mère au-dessus du seuil où jouait l'enfant. Et dehors il y avait tous les nids et tous les champs, tous les chemins creux au-dessous du vent, avec leurs trous pour les serpents. Il y avait les ronces des champs, et en soi une force plus forte que le vent, pour plus tard, et pour maintenant contre tout ce qu'il faudrait, certainement. Mieux valait faire la petite guerre dans les champs que s'angoisser au soleil couchant, à cause de son sourire peut-être, à elle, ou à cause de tout. Mieux valait se faire des bâtons avec le hou pour la gueule des chiens, mieux valait se battre dans les genêts, rendre coup pour coup et deux coups pour un, que venir encore aux étranges flaques d'eau pleines de reptiles, de vases, de racines, attendre d'y voir le soleil couchant versé comme du sang. Quand la guerre est au loin sur les chantiers de l'Est, les garçons du bourg s'acharnent aux champs. Avant que les touche la rosée du soir, force est de venir patauger dans l'eau près des haies feuillues. Et toujours ils savent y tailler un arc, mais ils ne savent pas s'arracher cette rage.
Morbihan. Ce qui fut fait à ceux des miens, qui fut exigé de leurs mains, du dos cassé, des reins vrillés, vieille à 30 ans, morte à 20 ans, quand le regard avait pour âge l'âge qu'on a pour vivre clair. Ce qui fut fait à ceux des miens, pas de terre assez pour manger, pas de temps assez pour chanter. Et c'est la terre ou c'est la mer, le travail qui n'est pas pour soi, la maison qui n'est pas pour toi. 14 pour les rassembler, l'armistice pour les pleurer, l'alcool vendu pour les calmer, un peu d'amour pour commencer, quelques années pour s'étonner, quelques années pour supporter. Je ne peux pas le pardonner.
Karnak, quand le géant noir, qui dort parmi les fossiles du fond des mers, se lève et regarde, les astres au creux du ciel ont froid et viennent se chauffer coude à coude. Les yeux morts de 100 000 morts tombent dans les rivières et flottent. Les menhirs, la nuit, vont et viennent et se grignotent. Les forêts, le soir, font du bruit en mangeant. La mer met son goémon autour du cou et serre. Les bateaux froids poussent l'homme sur les rochers et serrent.
Ils ne le seront pas, les rocs, qu'on parle d'eux. Et toujours ils n'auront pour tenir que grandeur. Et que l'oubli de la marée des soleils rouges. Ils n'ont pas le besoin du rire ou de l'ivresse. Ils ne font pas brûler du soufre dans le noir. Car jamais ils n'ont craint la mort. De la peur, ils ont fait un hôte, et leur folie est clairvoyante. La danse est en eux, la flamme est en eux, quand bon leur semble. Ce n'est pas un spectacle devant eux, c'est en eux. C'est la danse de leur intime et lucide folie. C'est la flamme en nœud du noyau de braise.
Que nous étions dans les menhirs, nous sommes parmi les menhirs. Justement, mon rêve, moi, ça a toujours été d'être dans la pierre. Alors, on peut s'y projeter. J'ai aussi écrit des poèmes qui s'appellent Les Rocs, où je vis, si je peux dire, j'essaie de vivre la vie des rocs. Mais évidemment, tout cela n'est toujours qu'un travail d'imagination, mais... Mais il y a aussi le rêve de solidité.
À Karnak, l'odeur de la terre a quelque chose de pas reconnaissable. C'est une odeur de terre, peut-être, mais passée à l'échelon de la géométrie, où le vent, le soleil, le sel, l'iode, les ossements, l'eau douce des fontaines, les coquillages morts, les herbes, le purin, le saxifrage, la pierre chauffée, les détritus, le linge encore mouillé, le goudron des barques, les étables, la chaux des murs, les figuiers, les vieux vêtements des gens, leurs paroles, et toujours le vent, le soleil, le sel, l'humus un peu honteux, le goémon séché, tous ensemble et séparément luttent avec l'époque des menhirs pour être dimension.
Voilà, donc nous retrouvons Eugène Guillevic qui parle, à travers ce poème, qui parle de l'odeur de Karnak. Et on a oublié de dire que Guillevic, donc de père gendarme, a suivi toutes les nominations de son père.
Au début, il se retrouve à Gemont, dans le Nord, un pays minier, dont il dit d'ailleurs que il entendait les cris des grèves, les manifestations, les gendarmes, ils avaient peur.
Et ils avaient peur de voir son père tué, voilà. puisqu'il y avait des affrontements très violents et qu'il arrivait que des gendarmes meurent. Dans la répression des grèves, il y a également, mais il ne quitte jamais la Bretagne puisqu'il retourne quand même, enfin pendant 2 ou 3 ans je crois, il reste à Jeumont, mais à partir du moment où ils vont retourner, la famille va retourner en Bretagne à Saint-Jean-Brévelay, et à partir de ce moment-là, il va quand même retourner toutes les vacances à Carnac
chez une tante, voilà.
Et donc ça, il va le dire tout au long, enfin, des interviews qu'il va donner par la suite, que ce paysage l'a complètement marqué, quoi. C'est-à-dire, il n'a vraiment jamais quitté cette terre natale de la Bretagne et ses impressions premières. C'est une chose qui va être tout au long de sa vie, même avec le sentiment que parfois il n'a pas besoin de voyager puisque tout est en lui. Il le dit souvent, pourquoi aller chercher un ailleurs au-delà des collines, puisque tout est ici, là où il vit, il a toutes ces impressions qui sont restées en lui. L'école, oui, pardon.
Et ce n'est pas de la mer qu'il garde le plus de souvenirs en étant à Carnac, mais de la terre. Et il dit les maisons étaient tournées vers la terre.
Les maisons des paysans avaient leurs fenêtres tournées vers la terre. D'ailleurs, il est lié aux bêtes de la terre, puisqu'il a un oncle qui est châtreur de bœufs.
De taureaux.
Donc, qui est une puissance colossale qui, raconte-t-il, le porte à bout d'une main quand il est petit encore. Il y a encore des concours auxquels son père participe d'ailleurs, qui consistent à lever les roues de charrette et les essieux les plus lourds. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est du côté affronté à la puissance virile. D'ailleurs, il raconte dans ces bagarres qu'on a évoquées tout à l'heure dans le premier micro, il raconte aussi cette espèce de rituel qui consistait à mettre une poignée de terre mêlée à de la paille sur l'épaule de celui qu'on voulait provoquer. Si l'autre garçon faisait semblant de rien et ne remarquait pas la chose, rien ne se passait. Mais s'il avait le malheur d'épousseter un petit peu son épaule, alors là, ça y allait. Et
tout
ça
le monde
y allait
lui tombait
à
dessus.
Fond, tout le monde dessus. Voilà.
Ça rappelle des choses actuelles d'ailleurs.
Voilà, peut-être. Bon, en tout cas, il va quitter, donc toujours en suivant les mutations de son père. Là, il va y avoir une grande migration vers l'Est. Il va partir en Alsace et il va s'installer près d'Altkirch, donc dans les Vosges. Et là, c'est un changement total de cadre et de paysage. Et on va suivre un Guillevic qui est élève très studieux. Un élève très studieux. Il va au collège d'Altkirch. Il lit énormément. Il a 4 heures de train par jour pour aller du petit bled de Ferrette où il habite jusqu'au collège. Et ces 4 heures quotidiennes de trajet, il va les utiliser à lire.
Et aussi à économiser sur certains trajets pour s'acheter des livres.
Ça c'est très important. Il dit qu'il a toujours des réflexes de pauvre. D'ailleurs, il les gardera très longtemps. C'est ce qui lui permettra de rentrer dans l'administration en faisant une sorte de profil bas. Il a une parole extraordinaire. Il dit « Ayons la moyenne ». Et il dit « C'est une parole de pauvres. Ne nous faisons pas distinguer par une intelligence particulière. Ayons la moyenne pour gagner des places. » Donc ses parents le mettent au collège. Le professeur demande « Est-ce qu'on va lui faire faire du latin ?» Les parents, du latin, à quoi ça sert ? Donc ça sera un grand regret qu'il aura toute sa vie d'ailleurs de ne pas... Et avec aussi même une espèce d'exigence par rapport à lui-même en disant « Est-ce que je ne me trompe pas de mots ?» C'est quelqu'un qui est extrêmement précis, qui va plus tard, quand il va rencontrer d'autres écrivains, va aller jusqu'à leur demander « Est-ce que ce mot est bien utilisé correctement ?» Tournant vers Queneau, l'encyclopédiste, en lui disant « Là, j'ai utilisé tel mot, est-ce à bon escient ?»
Et effectivement, il dit que pour Terraquet, il a recherché tous les mots dans le dictionnaire pour avoir l'exact... origine du
voilà,
mot.
Terraquet, il faut le dire pour nos auditeurs, Terraquet, c'est un des premiers recueils qu'il a écrit et qui vient de ce mot Terraquet, c'est-à-dire mélange de terre et d'eau, lequel mot d'ailleurs a disparu, dit-il, après la publication de son bouquin du dictionnaire.
Mais il dit aussi que ça faisait référence à traquer.
Oui, et il y a aussi, on lui demande, est-ce que c'est traqué ? Oui, parce que Terraquet, on va y venir plus tard, paraît juste pendant les premières années de la guerre en France. Donc il y a ce long séjour en Alsace, hein, où il va finalement, alors il découvre les Vosges, on l'a dit, mais il va aussi apprendre, parce qu'il a une grande facilité pour les langues, il va apprendre l'alémanique, hein, qui est disons la langue parlée à l'époque en Alsace.
En Alsace.
Hein. il apprend l'allemand.
Il apprend l'allemand.
Hein, il parle les deux, d'ailleurs.
Ce qui lui permettra plus tard de faire des traductions.
Absolument.
On y reviendra.
Et il va nouer quelques amitiés d'adolescence. Il dit que c'est la bibliothèque du curé qui lui fournit tout son stock de lecture. Hein. Alors il dit tout. Hein. Il découvre, pour lui c'est extraordinaire, de lire Le génie du christianisme de Chateaubriand, mais il lit aussi Les Vites de Thérèse de Lisieux. Il lit Musset, Lamartine. Il est absolument transporté par
Rimbaud.
Peut-être pas encore, mais surtout par les au début, c'est très classique. Hein. C'est Lamartine, Musset, mais Racine. Hein, dit qu'il est complètement subjugué par les monologues d'Attali de Racine. Et puis, il a quelques amitiés.
Alors, il commence à écrire, d'ailleurs, vers l'âge de 14 ans, en alexandrin.
Voilà, alors on va y revenir, mais c'est vrai que c'est une
la manière de Musset.
Très classique, voilà, au début. Et puis, il se fait quelques amitiés. Il a un ami qui s'appelle Henri, et... ils sont d'ailleurs tous deux amoureux d'une même fille.
C'est Henri Katz,
c'est Nathan Katz.
Nathan Katz,
Nathan Katz qui lui est poète et qu'il va rencontrer dans le train et avec qui il va nouer une amitié très longue.
Et donc, il tombe amoureux d'une jeune fille dont il dit que bon, ça aura toujours été un amour, on va dire, platonique, encore que chez lui, comme il dit, tout dans l'amour est quelque chose de charnel. Enfin, il le vit pour lui de manière charnelle. Et il tombe amoureux donc de Marie-Clotilde entre l'âge de 13 et 17 ans. Et malheureusement, Marie-Clotilde meurt à 17 ans. Et il lui écrira plus tard un poème, Élégie.
Il y eut les violettes dont tu me fis l'honneur et celles qui venaient dans le hasard des bois, qui voulaient m'amener au pays d'où venait la puissance de tes violettes. Lorsque nous tremblions l'un contre l'autre dans le bois, au bord du ruisseau, lorsque nos cœurs devenaient à nous, lorsque chacun de nous s'appartenait dans l'autre et qu'ensemble nous avancions, c'était alors aussi la teneur du printemps qui passait dans nos corps et qui se connaissait. La tendre terre humide où venaient les violettes, comme elle était pareille à ce que nous portions. Quand nos doigts emmêlés nous apportaient le monde et nous le confiaient pour notre éternité, nous n'avons pas forfait, tu le sais, mais tremblé car l'espace attendait de toute éternité. Je t'ai porté en terre, sur mes bras fatigués. Je croyais à l'époque qu'ensemble nous allions vers une éternité et que tu me voyais te porter sur mes bras vers cette éternité. Je serais descendu jusqu'au lointain rivage où l'on parque les morts. Je serais descendu au creux des profondeurs pour être même une ombre à côté de ton ombre. Mais la terre est opaque et ne connaît les morts que pour les envahir. Je t'ai cherché dans tous les regards, et dans l'absence de regard, dans toutes les robes, dans le vent, dans toutes les eaux qui se sont gardées, dans le frôlement des mots, dans les couleurs des couchants, dans les mêmes violettes, dans les ombres, sous tous les êtres, dans mes moments qui ne servaient à rien, dans le temps possédé, dans l'horreur d'être là, dans l'espoir toujours que rien n'est sans toi, dans la terre qui monte pour le baiser définitif, dans un tremblement où ce n'est pas vrai que tu n'y es pas. Je t'ai cherché dans la rosée abandonnée, dans le noisetier qui garde un secret prêt à s'échapper, dans le ruisseau, il se souvient. Je t'ai cherché dans les endroits où la verticale voulait s'allonger, je t'ai cherché là où rien n'interroge. J'ai cherché ces lieux. Je t'ai cherché dans le champ du merle qui dit le passé parmi l'avenir, dans l'espace qu'il veut bâtir. Dans la lumière et les roseaux, près des étangs où rien ne s'oublie, c'est dans mes joies que je t'ai trouvé. Ensemble, nous avons fait s'épaissir le soir et dorloter des corps impatients de servir. J'ai appris qu'une morte soustraite, évanouie, peut devenir soleil.
Thank you.
Si un jour tu vois qu'une pierre te sourit, iras-tu le dire ? C'était une pierre. Ce n'était pas une voix qui venait de loin, des profondeurs de l'air, de la nuit. Ce n'était qu'une pierre qui, près de toi, ronronnait son mal, ou le tien. Ce soleil dans le ciel, c'est toi qui l'as plaqué au-dessus de l'horizon. Tu l'as inventé, tu l'as projeté, tu le nourris. Il t'éclaire, il te chauffe. La journée sera bonne.
Mes organes décrisent l'amour, terreur mes contiguës du monde, herbes en gris et Aglane hule nanevez, mes oganet ekreiser mour ebro arevo.
Faudra bien laisser à leur place, à leur sort, ces montagnes de terre qui ont forme de sein pourtant et qui respirent. Il faudra leur laisser de former ce front bleu devant lequel on passe, nous, avec la furie en nous et trop de chair.
Été. La femme enceinte attendait sur le seuil, dans l'air de la récolte. Tant de bonté mûrissait dans les pommes, et tant de force dans le bois de la porte et dans l'eau de la mare abandonnait la lutte. La petite fille avait déjà ses beaux yeux pour plus tard, au pied du lit où furent les morts dans des draps blancs. Cependant, l'épervier n'interrogeait pas son destin.
La femme, qui craignait le tonnerre par-dessus tout, comme elle revenait de la foire dans son char à bancs jaune et noir, comme elle revenait cossue de la foire dans sa lourde robe noire. Soudain vit un éclair couper le ciel en deux, puis un cheval, rejetant le feu de partout, lentement glissait du ciel vers la terre, sa très noble tête regardant vers elle. Et comme tremblante, elle attendait que vienne et tombe sur elle le fracas sans miséricorde du tonnerre, que le cheval, rejetant le feu de partout, descendait toujours dans le silence. Elle ne put se retenir de mourir et tomba parmi les œufs et la volaille.
Chanson. Le matin n'avait pas vu qu'il avait du soir dans l'aile l'appétit de l'ouragan sommeillé dans le torrent. La belette a bu le sang, le vent souffle sur les tables. Pour boire à l'étape aussi, il faudra beaucoup d'argent. Qui plus est, le jour se terre, le tertre a voulu la feuille, le tertre a mangé la feuille. Oh, la lutte est inégale.
Voilà, nous sommes en compagnie d'Eugène Guillevic, dont on raconte la vie et on dit les textes. Eugène Guillevic, venu de Carnac, du fin fond de la Bretagne, et comme il le disait lui-même, tout le monde n'a pas la chance d'être né dans le pays des menhirs.
Oui, je peux faire une petite description de Guillevic par Vénus Kourigata, une romancière et poète contemporaine. Guillevic, sa stature de menhir, sa voix rauque et sa douceur. L'ancien fonctionnaire au cadastre sculptait l'écriture, érigeait le poème en forme de stèle, donnait corps et âme aux objets. Démuni d'images, ses vers sonnaient comme des proverbes populaires où les blancs tenaient lieu de silence.
Voilà, on a pris un petit peu d'avance sur la vie de Guillevic par Vénus Kourigata, puisqu'on n'en est pas encore à son travail dans l'administration, mais on y arrive tout doucement. Donc, il était au collège d'Altkirch, où il a lié d'ailleurs, enfin, dans les trajets qui l'amènent de son petit village jusque-là, amitié avec Nathan Katz. Et il va faire ses humanités dans ce lycée. Il va découvrir aussi, par son prof de philo, parce qu'il commence déjà, enfin, il passe son bac d'abord en 1925. Assez tôt, il continue, parce qu'il est très brillant en maths, il fait une classe de mathélème, et c'est par son prof de philo en mathélème qu'il découvre la poésie moderne. En fait, il avait lu déjà Rimbaud, hein, il parle, comme l'a dit Patrick, en faisant des économies sur ses billets de train, il avait acheté Rimbaud, et son prof lui fait découvrir les premiers vers libres, enfin, après Rimbaud, disons. Alors, il y va découvrir donc Apollinaire, aussi les surréalismes, dont il dit qu'il n'est pas très attiré par eux, qu'au fond, il trouve ça un peu scolaire à côté de Rimbaud.
C'est cela, et il préfère de très loin les dadaïstes.
Voilà, il dit, dans Dada, il y a une véritable révolte. Dans le surréalisme, il y a une forme d'académisme. Et alors, donc, il écrit toujours. Hein, il écrit, il va passer un concours d'entrée à l'administration. Il va se destiner à l'administration de l'enregistrement. Hein, donc, par son côté comptable, enfin, sa facilité à manier les chiffres. Et il va avoir un premier poste à côté de Bâle. Je ne me souviens plus, je crois que c'est Hirsing, le nom de cette banlieue de Bâle dans laquelle... C'est ça. Voilà, il commence à travailler, il est reçu au concours d'administration et comme il le dit d'ailleurs, toujours en faisant profil bas parce qu'il a des collègues qui vont remettre des copies très brillantes auxquelles l'examinateur ne comprend rien, donc qui ont des notes assez médiocres, alors que lui, en faisant profil bas, toujours sa réaction de pauvre, il va passer brillamment l'affaire. Il lit aussi à l'époque, il découvre aussi Éluard, André Spire, qu'il aime beaucoup. Et puis, il va avoir des premières amitiés avec des jeunes poètes, donc on a dit Nathan Katz, mais il y a aussi... Dans le premier poste qu'il occupe, donc à Hirsing, où il a d'ailleurs à se dépatouiller avec des paperasses, l'ancien titulaire du poste ayant fini à moitié fou, il se retrouve devant des monceaux de papier couverts de cendres de cigares, il est tout seul, il n'y a personne pour l'aider. Et c'est un bosseur, hein, Guillevic, c'est un gars de la terre et qui n'a pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Et là, ce n'est pas le cambouis, c'est les papiers, mais enfin, avec une énergie considérable, il va se tirer d'affaire. Et il va rencontrer, parce qu'il est notaire dans le village, le père d'un autre poète qui est Jean-Paul de Dadelsen. Donc je me souviens plus du prénom du père, mais en tout cas, le père est notaire. Et c'est par là que va se faire aussi la naissance d'une amitié avec Jean-Paul de Dadelsen. Voilà. Il y a donc il découvre aussi Baudelaire, Rilke. On va pas faire tout l'état de ces lectures, mais il lui arrive une première mésaventure parce que au cours d'un examen qu'il va passer, un examen complémentaire, on pique dans la caisse. Enfin, un de ses subalternes pique dans la caisse quelque chose comme 7000 francs, ce qui doit être une petite fortune à l'époque. Et donc il est soupçonné de l'affaire et ça va peser longuement sur sa carrière où il va être très mal noté à cause de cette disparition et d'ailleurs il a une saisie régulière sur son salaire. Voilà.
Alors une chose aussi qu'il note, c'est que dans ce poste là à Hirsing, c'est que en fait il est seul. À part les rencontres avec les poètes, etc., ces allers-retours qu'il a fait aussi dans le train, là où il a rencontré Jean-Paul, mais il goûte à la solitude pour pouvoir écrire, être voilà. Seul avec lui-même.
D'ailleurs, personne ne sait qu'il écrit.
Voilà, hein, il insiste beaucoup là-dessus.
Il le cache.
Il sépare vraiment ses deux vies, voilà. Sa vie professionnelle et sa vie d'écriture.
Voilà, on lira peut-être un extrait qui parle de ça. Et puis, bon, il va se marier. Il va se marier avec une fille du pays. Et il va avoir un premier enfant, puis un deuxième. Enfin, il a deux filles.
Deux filles. Hein,
et c'est d'ailleurs... il mène cette vie très modeste et retirée. Hein. Il est brillant dans son travail, mais il ne montre à personne qui il est profondément. Il le dira souvent. Il dit, si je peux être cet homme rigolard et plaisantin, c'est aussi parce qu'il y a une très, très grande solitude en moi. Et il c'est par l'intermédiaire, enfin c'est par le hasard d'une maladie de sa fille. Il y a un moment terrible où sa femme est grippée, sa petite fille est grippée et l'aînée est atteinte d'une septicémie. Et là, il décide d'aller à Paris pour la soigner. Voilà. Et il va, aux enfants malades.
C'est ça. Hein,
et c'est là qu'il va
faire pour la sauver.
Et il va tout faire pour la sauver. Et elle est effectivement sauvée. Ça va être le début de sa carrière parisienne. Et on va s'arrêter là peut-être pour parler... Laissez la parole à Guillevic lui-même.
Ces meubles qui ne voulaient pas se faire à notre chambre, à nos journées de veille, qui boudaient notre puits, descendant et montant comme la mouche à viande qui cherche et qui se cogne, et le chien fauve et souple qui avalait si bien le lait quand il nous vint, qui l'acceptait de nous, qui paraissait jouer franc-jeu avec nos mains, et qui se révéla bête des grands chemins et du hasard, bête à bataille, bête à mettre en lambeaux celui qui siffle gai et qui demande qu'on l'accompagne. Le chien qui nous narguait, qui se savait plus fort en vertu d'une loi dont bleuissaient ses yeux, qui aimait la volaille chaude et tout détruire. La bête au souffle chaud, bête à dents et muqueuse, le compagnon peut-être dans les champs des guêpes terrifiantes qu'il allait joindre ou commander. Gardien d'on ne sait quoi, de nocturne et du sang contre l'humain.
Monstre. Il y a des monstres qui sont très bons, qui s'assoient contre vous, les yeux clos de tendresse, et sur votre poignet posent leurs pattes velues. Un soir, où tout sera pourpre dans l'univers, où les roches reprendront leur trajectoire de folle, ils se réveilleront. Du bouton de la porte au flot hargneux de l'océan, du métal de l'horloge aux juments des prairies, ils ont besoin. Ils ne diront jamais de quoi, mais ils demandent, avec l'amour mauvais, des pauvres qu'on assiste. Il ne suffira pas de les mouiller de larmes et de jurer qu'on est comme eux. Il ne suffira pas de se presser contre eux avec des lèvres bonnes et de sourire. C'est davantage qu'ils veulent pour les mener à bien, où la vengeance est superflue. Tu n'as tué personne encore. Tu pourrais être sans remords. Tu n'as pas corrompu le sang, ni fermé la plaie de la femme. Tu n'as pas tari les sueurs, extirpé l'espoir hors des glandes. Tu n'as pas malaxé les sexes. Tu pourrais manger sans horreur.
Fallait-il donc faire tant de bruit autour d'une chaise ? Elle n'est pas du crime. C'est du vieux bois qui se repose, qui oublie l'arbre, et sa rancune est sans pouvoir. Elle ne veut plus rien, elle ne doit plus rien. Elle a son propre tourbillon. Elle se suffit.
Chose. L'armoire était de chêne et n'était pas ouverte. Peut-être il en serait tombé des morts. Peut-être il en serait tombé du pain. Beaucoup de morts, beaucoup de pain. Récit. Pendant 7 ans et d'autres jours, elle attendit qu'il revînt du bourg. Droite, sur ses hanches, dans sa maison blanche. Il ne parlait guère, plus souvent qu'une pierre. Et s'il souriait, je ne le savais. Est-ce que seulement il m'a vu vraiment? Quand il regardait mes genoux, le vent passait plus frais sur mon cou.
1, 2, 3, j'ai tué un roi. Tournez, hirondelles, mes filles sont belles. 1, 2, 3, il est déjà froid.
Dans le quotidien de la vie, pardon, je ne me présentais pas comme poète. Voilà ce que dit Eugène Guillevic. Aux yeux de tous, j'étais un petit fonctionnaire breton exilé en Alsace, parlant allemand et alsacien. Moi seul savais que j'avais à porter en moi cette étrangeté qui me forçait à écrire. En somme, c'était comme si constamment je nageais dans des eaux souterraines et que ma vie sociale était un périscope. Des labyrinthes me reliaient à ces eaux souterraines et dans cette espèce de mer intérieure, j'avais avec les choses des rapports passionnels. Voilà, ça résume bien ce qu'on a dit. Guillevic entreprend donc un long parcours dans l'administration, puisqu'il va y rester, je crois, jusqu'à l'âge de 58 ans.
Jusqu'à
56
la retraite,
ans,
oui.
Qu'il va prendre en avance.
Anticipé, 58 ans, oui.
Voilà, et donc il est toujours en Alsace, et on l'a quitté plus tôt. Il a quitté l'Alsace, on vient de le retrouver à Paris où il va s'installer. Et là va commencer aussi ses premiers contacts avec le monde des poètes et le monde des littéraires. Il va d'abord rencontrer. Par l'intermédiaire d'ailleurs d'un industriel alsacien, Cotard, il va rencontrer Jean Follin. Hein, il va commencer à suivre des réunions aux Capoulades, qui sont des réunions un petit peu où tous les poètes partagent leurs textes. Hein, c'est pas non plus le salon littéraire, c'est vraiment des amitiés très fortes qui vont se nouer. Hein, il propose quelques textes. À la NRF qu'il aime beaucoup, mais ils sont refusés par Jean Paulhan, mais malgré tout il est défendu mordicus par Jean Follin. Il fait connaissance avec Tortel, qui d'ailleurs travaille aussi dans la même administration que lui, Jean Tortel. Il fait connaissance de Supervielle, de Pierre-Albert Biraud. Et comme on l'a dit déjà, il prend ses distances avec le surréalisme. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'âme des choses. Quoi. D'ailleurs, il dit qu'il va être complètement conquis par Cézanne, qui va être un choc esthétique formidable pour lui, parce qu'il voit, disons, une sorte de poésie encore plus révolutionnaire que chez les surréalistes dans l'humilité et la modestie de Cézanne. Et c'est aussi la même époque où il va être attiré petit à petit par le marxisme. Il va donc se rapprocher du PC. Il faut rappeler quand même que c'est dans la période qui précède juste la guerre. C'est dans la période entre, en gros, 35 et 40.
Et d'ailleurs, il fait un rapprochement entre Cézanne et son entrée dans le communisme.
Oui, il dit que c'est dans la même époque que ça arrive.
Et il dit « Je remarque, j'y pense tout à coup, que ma découverte, mon amour de Cézanne ont coïncidé avec mon approche et mon adhésion au marxisme. Voilà. Cela s'est fait en même temps. »
Il faut dire aussi que, par son métier lui-même, hein, Guillevic, qui est donc en charge, par exemple, de l'attribution de l'assistance judiciaire à des petites gens, va côtoyer toutes sortes de drames sociaux. Hein. Il raconte, on n'a pas le temps de raconter toutes les anecdotes, mais il y en a une particulière où une paysanne vient demander le divorce et demande l'assistance judiciaire pour le divorce, et où son collègue n'arrête pas de lui dire « Mais pourquoi voulez-vous le divorce ?» Et à la fin, la paysanne se tourne vers son mari en disant « dis-lui donc ce que tu fais avec les bêtes. » Voilà, donc bon, il fait une plongée dans la misère sociale, et c'est peut-être ça aussi qui le motive vers quelque chose de plus solidaire. Mais dès son enfance, il a une espèce de solidarité avec le monde entier, avec le cosmos. Et c'est aussi peut-être là-dedans qu'est la vraie source de son, disons, de cette forme d'humanisme qu'il a.
Alors j'en profite, comme tu parles de cosmos, pour revenir aussi à Follin, qui est un des poètes qu'on dit matérialiste comme lui, et qui justement, à partir d'une vision très précise des choses qui entourent dans le quotidien, élargissent à chaque fois au cosmos, l'universel.
Absolument. Il y a aussi un autre écrivain qu'il aime beaucoup, qui est Marcel Arlan, hein, et qu'il va rencontrer donc, en 40, Guillevic est mobilisé dans l'armée. Comme il est un administratif et qu'il a déjà pas mal de bouteilles là-dedans, il est envoyé à l'école militaire d'administration à Vincennes. Et cette école, d'ailleurs, dès l'entrée des Allemands en France, va être transférée à Bouguenay, dans la région de Nantes. Et c'est là qu'il va devenir... Bon, on n'a pas le temps de raconter tout le détail de cette chose, mais on pourrait inciter tous nos auditeurs à lire ce magnifique bouquin « Vivre en poésie », hein, qui est publié au temps des Cerises, ou qui se lit comme un roman, quoi, hein, qui est la vie de Guillevic. Donc il va rencontrer Marcel Arlan, qui l'aide dans un voyage absolument rocambolesque pour aller jusqu'à Nantes.
Pour traverser la France.
Voilà, ils deviennent amis, et c'est grâce à Arlan. Hein, Arlan va beaucoup le soutenir, et finalement, on va lui promettre d'être publié dans Europe, qui est une revue très importante à l'époque. Jean Cassou s'engage pour le publier très vite dans Europe. Malheureusement, le numéro ne paraîtra qu'en 1946, puisque la guerre arrive, elle arrête tout. Voilà. Donc, et c'est en 42 quand même qu'il va publier ce grand livre qui va quand même faire éclat, quoi, qui est Terraquet, dont on a déjà parlé, et qui est publié par Drieu-La Rochelle. Voilà. On n'a pas le temps d'aller plus loin pour ce micro, mais il faut dire quand même qu'il y a deux très belles pages dans Vivre en poésie de Guillevic qui racontent l'estime entre ennemis qui régnait entre Guillevic et Drieu-La Rochelle.
Thank you.
être, où et quoi. N'importe où, mais pas rien qu'en soi. Être dans le monde, fragment, élément du monde. Supérieur à rien, pas à quiconque, pas à la pluie qui tombe. Se sentir égal et pareil au pissenlit, à la limace. Inférieur à rien, ni au baobab, ni à l'horizon. Vivre avec tout ce qui est en dehors et en dedans. Tout ce qui est au monde, dans le monde. Fais-tu de paille? Non. Cathédrale? Non. Un souffle qui essaie de durer.
Et qu'est-ce qu'il t'arrive? Il t'arrive des mots, des lambeaux de phrases. Laisse-toi causer. Écoute-toi et fouille. Va plus profond. Regarde au verso des mots. Démêle cet écheveau. Rêve à travers toi, à travers tes années vécues et à vivre.
Ce soir encore l'étang ne s'est pas mis debout au passage du vent. Les chambres sont glacées comme des carpes. La peur ne quitte plus les longs couloirs. L'étang viendrait devant les vitres, bavant des joncs et des têtards. Il y a quelqu'un dans le vent, sa main se venge sur les murs et les arbres. Corps humain que l'on palpe, corps qui sue. Rien que ces corps devant la peur, devant le froid et l'avenir. Et si les temps se lèvent, libidineux, il n'aura pas raison de notre calme. Nos mains qui caressent les femmes sauront l'atteindre et lui percer le ventre.
Attends. Continue à résister. La pression n'est pas tout à fait assez forte. N'écris pas maintenant, pas tout de suite. Tu peux encore tenir. Supporter son corps n'est pas toujours commode. Quand tu écris, c'est comme s'il n'existait pas, s'il se fondait dans plus vaste que lui. Inextricable ce dans quoi tu vis, un dédale, un mélange de tout et de rien, alors tu te rabats sur l'élémentaire, tout ce qui fut à l'origine et qui demeure. Là, tu peux t'appuyer sur ce qui te ressemble. N'attends pas plus longtemps. Si tu ne saisis pas le poème, aussitôt qu'il exige, peut-être jamais plus il ne reviendra. Peut-être il se détruira. Ou s'engouffrera dans un monde. À combien de dimensions ?
Sur ce fragment d'art poétique de Gene Guillevic se termine la première heure d'émission qu'on lui a consacrée. Évidemment, vous pourrez retrouver ces textes dans les quelques recueils qui sont parus en Poésie Poche, Terraquet, Art Poétique, Sphère, Carnac, et puis, comme on l'a dit, ce très beau livre qui s'appelle Vivre en Poésie, publié par Le Temps des Cerises. Remercions aussi tous les camarades qui ont participé à cette émission, Cécile Combredet, Marc Pastor, Jean-Claude César, Thérèse Bonetta qui est avec nous, Patrick Vendrin qui a préparé l'émission avec moi. Également, les musiques que nous avons employées sont venues de la Belgique à travers un disque de musique populaire. Je remercie aussi Asia Debascunana qui, pour la première fois, a prêté sa voix aussi à l'émission. Florence Mouriras également. Et puis, vous avez peut-être reconnu quelques petits extraits de la musique du film La leçon de piano, ainsi qu'une interprétation très particulière de Jan van Schemener qui chantait Mezzoganet, et également de Didier Skiban qui jouait le thème de La mer est immense. On a entendu un petit peu la voix de Guillevic dans deux petits morceaux d'interview. Je ne sais plus qui c'est d'ailleurs.
Par Pierre-Jacques Elias.
Pierre-Jacques Elias, qui était son intervieweur. Il me tuerait s'il entendait ce mot. Voilà. Vous pouvez réécouter cette émission quand vous voulez, en podcast, et également sur le site michelarbatz.com. À bientôt.